Cours de métaphysique sur la personne par la Père Marie Dominique Philippe à Rimont le 8 janvier 2002.
Je ne sais pas si vous avez attendu, c'est parce qu'on est obligé comme conseil et que dans le conseil on me demande de dire toujours un petit mot au début pour entrer dans les problèmes qu'on doit discuter. Alors, il y a deux questions. Je présume qu'il y en a beaucoup plus. L'amour réclame la conscience, car la connaissance est présente dans l'activité volontaire. Pourriez-vous préciser ce qu'est la conscience et ce qu'on peut en dire en philosophie? Comment influence-t-elle l'amour? La conscience est une propriété de l'activité intellectuelle. Quand on connaît quelque chose, on est conscient de le connaître. C'est une propriété. Et on a fait de la propriété une réalité en soi. La conscience a été développée beaucoup au point de vue philosophique, alors que Aristote n'en parle pas beaucoup. Il en parle. L'activité intellectuelle est consciente. Mais c'est l'activité intellectuelle. Et vous comprenez que c'est très difficile. C'est très différent de regarder la conscience comme une propriété ou de regarder la conscience en soi. Ne regardez pas la conscience en soi. C'est un faux problème. Regardez la conscience comme une propriété de l'activité intellectuelle. Je suis conscient de connaître. Je suis conscient de faire avec vous un cours. J'espère. Et vous êtes conscient d'écouter et d'assister à un cours. Et vous avez après une autre activité, vous allez à la chapelle. Vous êtes conscient d'être un religieux, de devoir prier. Et cette prière est particulièrement difficile aujourd'hui de vous recueillir. Vous êtes conscient de vous recueillir. Vous voyez, l'activité spirituelle a cette propriété d'avoir la conscience. L'activité volontaire n'est consciente que par l'intelligence. C'est pour ça que la passion d'amour, l'affectivité, la passion, vous n'êtes pas conscient. Vous faites des choses volontaires, instinctivement, passionnément, et on le dit. On fait passionnément quelque chose et on le fait de façon plus forte, avec une activité plus grande que lorsque on fait les choses consciemment, à froid. Et pas seulement à froid, mais consciemment et en réfléchi. Vous êtes conscient d'assister à un cours. Vous êtes conscient que le professeur est en retard de quelques minutes. Et puis ça se prolonge trop. Vous dites, quand même, vous devrez être à l'heure. Oui, par l'inconscience, vous jugez les activités des autres dans la mesure où vous pouvez les juger, puisque vous les jugez de l'extérieur et ne voyez pas les intentions. De sorte que votre conscience, si vous êtes vraiment respectueux dans la charité fraternelle de votre voisin, vous dites, je sais, je ne peux pas le juger. Il fait ça, Je ne comprends pas son activité, son attitude extérieure. Mais je ne le juge pas. Il a peut-être une intention autre. Oui, regardez bien, puisque vous avez expérience de la conscience, regardez bien que votre conscience est variable suivant les différents actes que vous posez. Et quand vous posez un acte affectif, volontaire, bon, la conscience est présente dans cet acte volontaire. Volontairement, vous vous levez à telle heure. Mais il peut arriver qu'étant couché le soir très tard, tel événement particulier, vous avez très mal dormi, vous avez endormi seulement sur le matin, oh, aujourd'hui, je ne devrais pas me lever. Ça peut arriver, ça. Et ça peut arriver que vous avez raison de ne pas vous lever. Et ça peut arriver aussi que vous avez été un peu paresseux. Et c'est votre conscience qui vous dira ça. C'est pas votre réveil. C'est votre conscience. Et c'est pas le supérieur qui vous dira, vous. Non, c'est votre conscience. Vous savez que vous devez autant que possible être à l'office, à la méditation, le matin. Et alors vous voyez, la conscience est quelque chose de intérieur, propriété de votre acte intellectuel, de votre intelligence. Et cette conscience est différente suivant les différents années. Alors, pourriez-vous préciser ce qu'est la conscience et ce qu'on peut en dire en philosophie? Comment influe-t-elle sur l'amour? Elle influe sur l'amour parce que tout amour spirituel, je dis tout amour spirituel, je ne parle pas de l'amour instinctif, tout amour spirituel présuppose la connaissance. Donc présuppose que j'ai conscience d'aimer. J'en ai conscience. Et c'est dans ce sens-là que où j'accepte cet amour qui peut grandir, ou au contraire, je l'arrête. Je peux très bien arrêter un amour pour une personne qui commence. Je commence par m'intéresser à elle. C'est le début. Il y a un petit quelque chose qui fait que je m'intéresse à elle. Je ne suis plus tout à fait indifférent par rapport à elle. Il y a quelque chose en moi qui dit je suis en face de telle personne. Oui, l'éveil de la conscience. On vous dit par exemple, vous allez voir quelqu'un aujourd'hui particulier. Alors vous êtes éveillé dans cette conscience. Vous voyez, il y a un éveil intellectuel. Cet éveil intellectuel vous rend conscient. Et quand la conscience est très forte, vous n'avez plus la même objectivité. Et ça qui est terrible. En fonction de l'amour que vous avez, vous n'êtes plus objectif parfaitement. Parce que l'amour qui s'éveille dans cette conscience que vous avez de recevoir telle personne, de voir telle personne, fait que nécessairement vous intéressez à cette personne subjectivement et vous faites beaucoup moins attention à ce qu'elle vous dit et vous voyez avant tout la personne. Et soyez conscient de la différence dont vous écoutez tel cours par tel professeur, tel cours par tel autre professeur. Vous avez la conscience que vous n'avez pas la même attitude. Est-ce légitime ? Alors là, tout de suite, vous avez la conscience morale. Donc, ne confondons pas les deux consciences. Vous avez une conscience, tout simplement, de vos activités intellectuelles et affectives, et vous avez conscience morale de ce que vous devez faire. Et pour la conscience morale, vous mesurez si c'est bien, cette activité est bonne ou cette activité n'est pas bonne. Et entre deux, la passion peut passer. Et quand la passion est très forte, on oublie complètement ce qu'on doit faire. On se laisse prendre par la passion. On n'est pas conscient. C'est la passion qui prend le dessus. Donc, la conscience diminue avec l'aspect passionnel. L'aspect passionnel n'est pas conscient. La conscience vient du point de vue intellectuel. C'est l'intelligence qui est consciente. Ce qui est passionné chez nous n'est pas. C'est passionné, c'est instinctif et passionné. C'est l'un ou l'autre. C'est quelque chose qui nous échappe. Alors, il faut bien voir que la conscience vient de l'intelligence et que plus on est loin de ce point de vue intellectuel, plus on est passionné. Et quand on est passionné, on agit inconsciemment. Et bonne histoire, excellente histoire qu'on raconte toujours. C'est un de mes amis, je ne dis pas la personne, c'est plus respectueux, qui habitait dans le Paris au 5e étage. On avait à manger, on avait rangé les water. Hein? Alors, tout le bâtiment était arrêté. Et comme cette personne était facilement distraite, alors il tire le robinet. Alors vous m'avez demandé de ne pas parce qu'on devait travailler. Alors, en bas, il entend crier quelqu'un. Qu'est-ce que vous faites ? Alors il répond, ah, ça m'est sorti de la tête. Alors tout le monde a éclaté de rire. Ça montre bien que la conscience, ça vous sort de la tête. C'est très complexe la conscience. C'est une relation que vous faites avec vos intentions et l'acte. Il y a toujours l'aspect volontaire. Vous nous avez parlé de la recherche de la vérité et de l'amour comme dimension de la personne humaine. Mais dans notre monde, nous voyons que ces deux dimensions sont très attaquées et mal vécues. Qu'est-ce que la philosophie, qu'est-ce que le philosophe comme philosophe peut dire de cette dégradation qu'il peut constater ? C'est très vrai qu'on vit un monde où le point de vue efficacité domine. Dans beaucoup d'activités, on peut être conscient que telle activité est efficace et que telle activité n'est pas efficace dans le monde d'aujourd'hui. Faire un cours de philosophie n'est pas efficace. On le sait. Ça n'a de sens que dans la recherche de la vérité. Dans la recherche de la vérité, c'est très important. Mais s'il n'y a pas la recherche de la vérité, c'est plus. Ça n'a plus de sens. C'est pour ça que la première chose qu'il faut, c'est avoir ce désir de recherche de la vérité. Alors, dans la recherche de la vérité, on prend les moyens qui sont adéquats. Dans un monde où l'intention dominante n'est pas la recherche de la vérité, mais le point de vue de l'efficacité, tout ce qui est uniquement ordonné à la recherche de la vérité n'a plus d'intérêt. Ça, c'est vrai. Alors, dans un monde où on ne recherche plus la vérité, on va mesurer l'intérêt de ce que nous faisons en fonction de l'efficacité. Efficacité au point de vue argent, efficacité au point de vue honneur, efficacité au point de vue activité charitable. Ça dépend à quel niveau vous vous placez. Mais vous mesurez l'intérêt d'une chose en fonction justement de ces points de vue d'intention. La recherche philosophique de la personne demeure toujours la même. Mais on oublie de réfléchir sur ce qu'est une personne. Si vous réfléchissez sur ce que c'est une personne, philosophiquement, vous êtes bien obligé de reconnaître qu'une personne, c'est quelqu'un qui pose des actes consciemment. Quelqu'un qui tue son voisin passionnément, ce n'est pas un acte personnel, c'est un acte passionné. C'est la passion. Alors c'est un acte individuel, il est terriblement individuel, mais il n'est pas personnel. Il ne relève pas d'une personne. Il ne relève pas de son intelligence et de son intention vers le bien. Autrement, il ne le ferait pas. Il aurait le souci de ne pas le faire si cette activité était vraiment personnelle, c'est-à-dire intellectuelle et volontaire. Mais c'est très vrai que dans nos journées, surtout si nous sommes fatigués, il y a peu d'activités personnelles. On peut très bien obéir à la cloche instinctivement sans que ce soit un acte humain. Donc ce n'est pas un acte personnel. Et je me souviens cet exemple, vous comprenez. C'est un jeune abbé qui voulait faire comprendre à sa communauté qu'il fallait avoir une attitude beaucoup plus profondément religieuse. Et il était très charismatique et sous l'influence de l'Esprit Saint, il comprenait qu'il ne devait pas dire ça au chapitre pour tout le monde, parce que chacun dirait que c'est pour son voisin et pas pour lui, et qu'il devait le dire à chacun en particulier. Alors, vous voyez, ne pas pouvoir le dire à tout le monde parce que ce ne serait pas un acte humain reçu comme un acte humain, on dirait c'est pour le voisin. Et c'est constamment comme ça dans notre vie. On vit machinalement, c'est plus humainement, c'est bien volonté. Vous voyez, la finalité n'est plus en acte. On veut que les choses soient propres, nettes, et puis c'est tout. Les choses redeviennent humaines en raison de la finalité. Et c'est ça qui est très important à saisir. C'est seulement ce qui est finalisé, c'est seulement cela qui est personnel. Tout acte non finalisé n'est pas personnel. Il y a un petit examen de conscience qu'on doit faire là-dessus. On est tellement habitué de suivre des cours. Ça devient machinal. Combien de cours suivez-vous par semaine, hein? Un cours de plus, un cours de moins, c'est machinal. Alors, dès que c'est machinal, ce n'est plus personnel, ce n'est plus humain, c'est le troupeau de moutons, c'est la brebis qui est dans le troupeau, qui suit, et qui ne fait pas ça personnellement. Alors, c'est ça qu'il faut essayer de comprendre, c'est d'étudier qu'est-ce qui permet de dire que telle activité est personnelle. Alors, nous faisons une étude pour voir que dans l'activité personnelle, il faut d'abord l'autonomie. Vous faites cet acte de vous-même. Si vous êtes forcé de le faire, si vous le faites parce que vous subissez une influence trop grande de quelqu'un et qui vous dit de le faire, ce n'est plus personnel. Ça devient un acte individuel. Il n'a plus aucune valeur personnelle. Bon, premier moment, on a vu ça, l'autonomie. Si cet acte n'est pas fait avec l'intelligence et la recherche de la vérité, il n'est plus personnel. C'est terrible, hein? Quelqu'un qui agit sans chercher la vérité n'agit plus personnellement. Il fait encore des actes peut-être très grands, très importants, mais ce n'est plus personnel. Il faut qu'il y ait une recherche de vérité. Et la troisième dimension, c'est celle qu'on voit maintenant. Pour que ce soit un acte personnel, il faut que cet acte soit finalisé. Tous les actes que vous pouvez faire et qui ne sont pas finalisés ne sont pas personnels. Relève de l'individu. Un individu fait partie d'un groupe, et alors en tant qu'il fait partie d'un groupe, il fera certaines choses, mais au fond, il est un numéro dans le groupe. Et de plus en plus, et ça qui est terrible, c'est qu'on tend vers une chose à cela. Le monde, de plus en plus, devient comme une grande machine. Descartes avait déjà dit ça. C'est une grande machine. Parce qu'au fond, il n'y a plus de finalité. Il y a une finalité immanente qui n'est plus une finalité. La finalité de l'individu dans le tout. Il n'y a plus la finalité personnelle. Donc la troisième dimension de la personne, c'est le point de vue de l'amour. C'est le point de vue volontaire. Une activité personnelle est toujours volontaire. Toujours. Une activité non volontaire n'est pas personnelle. Elle est instinctive. distinguer bien l'activité volontaire. Une activité volontaire, c'est une activité en vue d'un but, en vue d'une finalité. Je fais ça consciemment en vue de telle chose. Et une activité passionnelle, elle n'est pas finalisée. Sur le moment où vous étiez en colère et vous n'avez pas voulu agir et vous avez agi passionnément. Quelqu'un qui passionnément désire tuer son voisin et qui est dans le bon moment, c'est pas un acte personnel. C'est pas un acte personnel, c'est-à-dire on va le punir comme un acte. C'est un acte individuel. Cet individu est dangereux. Et il est dangereux parce qu'alors, au point de vue de la communauté, on ne sait jamais ce qu'il va faire. Il ne va pas être sous le point de vue volontaire de rechercher le bien de la communauté. Il risque de faire une extravagance qui est tout à fait en dehors. Donc, et nous venons alors, et nous continuons, la troisième dimension de la personne, et vous le découvrez dans l'activité même de la personne, il faut que l'acte soit volontaire. Alors, qu'est-ce que c'est que la volonté? Qu'est-ce que c'est que ma volonté? Ma volonté, pour Descartes, la volonté, c'est un acte efficace. C'est très important de se rappeler ça. C'est un acte efficace. Pour Thomas d'Aquin, pour Aristote, la volonté, c'est un acte d'amour. Voyez le glissement. Et ce glissement s'est fait très fort. Et pratiquement, aujourd'hui, volontaire, c'est un acte efficace. Ce n'est plus un acte d'amour. Alors que premièrement, la volonté est une faculté, une puissance que nous avons tous. Une puissance d'aimer. Et l'efficacité suit l'amour. Et il est très important d'arriver à se corriger soi-même pour que le point de vue de la volonté soit premièrement aimer. Aimer une personne. Parce que aimer une chose, c'est rechercher cette chose pour nous. Ce n'est pas véritablement l'aimer. L'aimer, c'est un don de soi-même à l'autre. Vous ne pouvez vous donner qu'à une personne qui est capable de recevoir votre amour. Vous voyez ? Et c'est pour ça que l'amour d'amitié chez Aristote est tellement profondément étudié parce que c'est grâce à l'amitié que je découvre ce qu'est la volonté. Tant que vous n'avez pas l'expérience de l'amitié, vous n'avez pas l'expérience de la volonté. Vous avez l'expérience de la volonté à la manière de Descartes, c'est-à-dire d'une réalisation d'une chose volontaire, à la manière d'un artiste qui veut réaliser telle œuvre. Mais la volonté chez l'artiste est une volonté d'artiste et non pas d'homme. Et vous voyez bien la différence entre les deux. La volonté de l'artiste, de l'artisan, c'est capital autrement. On n'apprend jamais son métier. Et on ne le saura jamais. Quand on dire quelqu'un, vous manquez de volonté. Oui, même dans le langage français. Le langage français est très cartésien. Quand on dit à quelqu'un, vous manquez de volonté, qu'est-ce que vous dites? Vous ne pensez pas du tout à cette personne, vous manquez d'amour. Pas du tout. Vous pensez à la personne qui n'arrive pas à continuer quand elle a décidé de faire quelque chose, de continuer de le faire et de le faire jusqu'au bout, de réaliser ça. Vous n'avez pas de volonté. En réalité, point de vue philosophique, quand on dit à quelqu'un « vous n'avez pas de volonté », ça veut dire « vous ne savez pas ce que c'est qu'aimer ». L'acte premier de la volonté, c'est l'amour. C'est pour ça que quand on dit que la troisième dimension de la personne, c'est l'acte volontaire, ça veut dire un être humain qui veut développer sa personne d'être capable d'aimer. Vous voyez, la conséquence de Descartes est terrible. Parce que si on ne regarde que le point de vue de l'efficacité, la volonté, on a un monde qui se construit sans finalité. On confond finalité et terme. Une activité, on la termine. On la fait quand justement on a terminé cette activité. Alors on confond le but et la fin. On confond la réalisation et l'amour. Et on ne parle plus que de réalisation. C'est pour ça que c'est tellement important de revenir à ce que dit Thomas d'Aquin. La volonté s'actue, elle se précise à l'égard du bien. Ce qu'on aime, c'est un bien. Et c'est ça qui me finalise. C'est le bien qui me finalise. Ce n'est pas la réalisation. Une communauté n'existe et ne peut exister que si entre les membres de cette communauté, il y a un amour qui passe. On aime les personnes de cette communauté. On les aime comme membres de cette communauté et pas uniquement selon l'efficacité. Ah, j'aime cette personne parce que dès que j'ai besoin de quelque chose, elle sera tout de suite là. Je l'aime en raison de son efficacité. Et je ne l'aime pas pour elle-même. Donc il n'y a pas un véritable amour. Le véritable amour regarde la personne humaine que j'aime pour elle-même, que j'aime en elle-même. À ce point de vue-là, c'est le monde d'aujourd'hui meurt d'amour parce qu'il n'y a plus que l'efficacité. C'est la seule chose qu'on regarde. Est-ce que cette personne, quand on cherche du travail, est-ce que cette personne est efficace? Qu'est-ce qu'elle sait faire? Qu'est-ce qu'elle sait réaliser? Je comprends très bien, c'est plus facile de juger quelqu'un en raison de son efficacité qu'en raison de son amour. En raison de son amour, c'est très difficile d'évaluer quelqu'un. De l'oublier. C'est pas parce que c'est difficile qu'on doit l'oublier. C'est pas parce que c'est très difficile et même quelquefois impossible à vraiment déterminer. Chacun d'entre nous, nous avons notre manière d'aimer. Ah. Et donc notre manière d'aimer nous manifeste ce que nous sommes. Et nous voyons bien que la volonté, comme capacité d'amour, est une partie essentielle de la personne. Une personne humaine est quelqu'un qui est capable d'aimer, capable de choisir sa fin dans l'amour. Il faut pouvoir aimer pour choisir sa finalité. Celui qui n'aime pas ne sait pas ce que c'est qu'une finalité. Celui qui aime comprend tout de suite que la finalité, c'est justement ce qui nous fait désirer le bien. Ce bien, cette personne. Puisque parmi les biens, le plus élevé, c'est la personne. Parmi les biens que nous désirons, que nous choisissons, c'est la personne. Donc, désirer, aimer telle personne, c'est le plus grand bien. Et parce que c'est le plus grand bien, c'est celui qui caractérise de la manière la plus profonde ma capacité d'aimer. Ma capacité d'aimer, c'est d'aimer une personne. C'est pas d'aimer le chien ou le chat ou d'aimer un bon repas. Non, ça n'a rien à voir avec la personne. La personne, c'est d'aimer une personne. Elle a quelque chose qui est très très important et qui est complètement oublié. Cette chose est complètement oubliée dans ce qu'on regarde une personne. C'est la possibilité d'être tendu vers cette personne et de tout orienter dans nos activités vers cette personne. C'est l'intention de la vie. Quand on n'a aucune intention, on n'est pas une personne. Quand on a une intention suffisamment élevée, avoir une intention au regard d'une personne, évidemment, on peut avoir des intentions de travailler, et alors on a une intention de travailler qui regarde telle ou telle chose, mais alors c'est une intention dans le travail. C'est une intention artistique. Elle n'est pas ce qui caractérise la personne. On peut avoir des gens très efficaces et qui sont des brutes. Et même ce qui arrive souvent, c'est que les gens sont très efficaces, deviennent des brutes. Ils sont très efficaces, il n'y a que ça qui compte. Il n'y a aucune affectivité, il n'y a que ça qui compte. Alors, cela ne caractérise pas la personne. Ça caractérise tel individu. Un gourou, c'est un individu, c'est pas une personne. Parce que elle regarde tout en fonction de l'efficacité. Ceci est très important pour moi. Et c'est pour ça que je le prends. C'est en raison de l'efficacité. Mais l'efficacité ne caractérise pas la personne. C'est l'amour.